Une effigie de Lance Armstrong brûlée samedi soir dans le sud de l'Angleterre. Chaque année, la ville...
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que le maillot jaune du Tour de France est jaune? La couleur donnée au maillot vient en fait du subventionnaire du Tour de France, donc de ceux qui ont eu l'idée d'organiser le Tour de France, qui était le journal L'Auto. Ben oui, L'Auto qui finançait un Tour de France cycliste. Probablement que la cohabitation vélo-auto était plus facile à ce moment-là. Le journal L'Auto était alors imprimé sur du papier jaune, un papier jaune palace, un papier très bon marché qui servait à cette époque-là à faire des journaux. Il y en avait des roses pâles, il y en avait des verts pâles, il y en avait des jaunes pâles. Et donc, c'était une façon de rappeler l'organisme subventionnaire que de donner un maillot jaune à celui qui menait la course. C'était aussi également vu comme très pratique pour les journalistes parce que ça leur permettait, et les supporters, d'identifier le meneur parmi le peloton, ce qui n'est pas toujours évident selon l'angle dans lequel on regarde un peloton de cyclistes avancer. Voilà pourquoi est-ce que le maillot jaune du Tour de France est jaune.
Ah, le maillot jaune, jadis symbole de victoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le maillot jaune? Eh bien, voilà une question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui. Mais vous pouvez tout de même continuer à nous écouter, nous, dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Parce que cette semaine, on ne vous parle pas de maillot, mais bien de jaune.
L'expression « yellow journalism » que nous traduisons au Québec par « journalisme jaune » ou « jaunisme » sert parfois à désigner le caractère sensationnaliste de certains médias. L'expression proviendrait d'un personnage d'une BD publiée par deux grands journaux new-yorkais et qui s'appelait « The Yellow Kid ». Si les historiens l'associent à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le terme est toujours utilisé pour décrire l'abus de sensationnalisme ou de populisme de certains médias. L'expression « yellow paper » apparaît aux États-Unis à une époque où le journalisme d'information surpasse les feuilles à caractère politique et où la publicité devient la principale source de revenus. Le journal est désormais une entreprise qu'il faut rentabiliser. Or, pour vendre de la publicité, il faut du tirage. Ce qui fait vendre un journal, c'est la nouvelle. Mais pas n'importe quelle nouvelle, celle qui touchera monsieur et madame tout le monde. C'est donc le déclin des dépêches télégraphiques et la montée de la nouvelle locale et du fait divers. C'est aussi l'époque où apparaît la Une avec ses gros titres et ses illustrations. À la fin du 19e siècle, la concurrence entre le New York World de Pulitzer et le New York Journal de Hearst est si intense qu'on ne peut plus se fier sur le cours des événements. On en vient donc à créer de la nouvelle. Comment? Tout d'abord, on en crée en se mêlant de l'actualité, en lançant des croisades pour des causes sociales, en commanditant une expédition ou en offrant de récompenser pour capturer un meurtrier. Mais on ira aussi jusqu'à inventer des nouvelles et créer des entrevues de toutes pièces.
Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection.
Chez nous, dans les années 1880, le Montreal Star et la presse se lancent dans des campagnes sociales et certains reporters franchiront à quelques reprises la ligne séparant la réalité de la fiction. Avec le temps, certaines caractéristiques de ce nouveau journaliste deviendront la norme, alors que ces excès se retrouveront dans les pratiques journalistiques à éviter, à proscrire. Et qu'est-ce que le journalisme jaune en 2012? Les radios poubelles? Les paparazzis? L'abus de Vox Pop, la surenchère de l'opinion sur les faits ou bien la victoire d'un académicien en une du journal?
T'as remarqué que les manifs, c'est tout à Montréal? Il se passe rien en dehors. Je pense qu'il était 50 hier à Québec. Là, c'est fini. Puis en région, 0000, puis une barre. Tout à Montréal. Il y a beaucoup de gens à Montréal, et c'est un fait, qui viennent d'ailleurs, ok, notamment du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de pays où ça brasse, où il y a des dictatures, etc. Ça se peut-tu qu'ils arrivent ici, puis ils amènent avec eux un fort ressentiment, et je le précise, probablement justifié, de haine et de colère envers l'oppression, mais il manque juste un petit peu de réalisme.
On pourrait être bon, mais c'est tous des Québécois là, que je vois, là, honnêtement. Et de voir les humoristes se déprendre dans la marde qu'ils ont contribué à créer dans les dernières années, j'ai le goût de faire comme la cigale puis la fourmi, là. Tu sais, quand on arrive à l'hiver, là, hein? T'as rien préparé, là? T'as créé la marde, ouais. Sti, danse à cette heure. J'ai le goût.
Organise-toi avec tes troubles.
J'ai le goût d'être égoïste. Puis j'ai le goût d'être vindicative. Comment est-ce qu'on dit ça en français?
Vengeur.
Ouais, vengeur. J'ai le goût de savourer une revanche puis de lui dire, hein? Vous nous avez regardé caler puis vous trouviez ça drôle quand on se débattait avec la liberté d'expression. À cette heure que c'est votre tour, dansez maintenant, gang de clowns.
Surtout que nous autres, on a appris un peu à jouer avec la ligne. T'sais, on va se donner ce qui nous revient. On a appris un peu à jouer avec la ligne.
Daniel Grenier a fait paraître en avril dernier le recueil de nouvelles « Malgré tout, on rit à Saint-Henri » aux éditions Le Cartanier. On lui a demandé de nous écrire un petit quelque chose pour le mot « jaune ». Il nous est revenu avec quelque chose d'un peu spécial qu'on a fait lire par les comédiens Fanny Saint-Cyr et Francis Quentin. Je vais donc vous demander d'embarquer avec nous dans une DeLorean parce qu'on s'en va dans le futur. On est en 2027, Daniel Grenier est maintenant un auteur à succès. Il y a derrière lui des dizaines de romans et une reporter de l'émission Pousse-mine vient l'interviewer à propos de son nouvel ouvrage « Déclinaison en jaune ».
Bonjour, Monsieur Grenier.
Bien sûr, vous attendiez à quelqu'un d'autre?
L'auteur Daniel Grenier me reçoit dans sa suite au dernier étage du château Saint-Ambroise à Montréal. Nous sommes en plein cœur du quartier post-ouvrier qu'il a vu naître en tant qu'écrivain il y a de cela presque 2 décennies. C'est un condo de luxe entièrement remis à neuf avec des matériaux anciens. Par les fenêtres, on voit les eaux jaunâtres du canal Lachine et le centre-ville qui s'étend jusqu'aux portes de Verdun.
C'est ma résidence secondaire, en fait. J'habite maintenant en campagne à Saint-Henri-de-Bellechasse dans la région de Québec. Je viens ici pour... me recueillir. Pensez à ma carrière. On va être bien ici pour une entrevue. Pour une entrevue littéraire, on a besoin de calme. Hein? On n'entend presque pas les travaux de réfection des changeurs turcos d'ici. Écoute.
Non.
Vous voyez? On n'entend rien.
La première chose que je remarque en entrant, accrochée dans le vestibule à haut plafond, c'est une immense toile de Cournot. Yellow Pear Hill, numéro 3. Suspendu bien en évidence sous la mezzanine, devant moi, dès qu'il m'ouvre la porte, je suis soufflé. C'est un torse d'homme sculpté au couteau de précision, entouré de spirales violettes et jaunes. Couleurs complémentaires. Force de la composition. Il y a 1000 chevaux vapeur dans chacun des coups de pinceau. Grenier suit mon regard et un sourire lui fend les lèvres jusqu'aux oreilles. Il reluit. C'est sa dernière acquisition. Il en est fier.
Si je pouvais, c'est bien simple, je l'accrocherais dehors sur le balcon à la vue de tout le monde.
Vos voisins seraient chanceux?
Comme si ce n'étaient pas déjà les voisins les plus chanceux de la ville.
Ça n'aura pas pris de temps. À peine a-t-il pris mon manteau pour le pendre à un crochet de fer forgé que nous sommes déjà complices. Je sens que les questions ne seront pas difficiles à trouver et que les réponses ne seront pas à attendre. Il n'est pas vaniteux, m'assure-t-il, mais il a toujours aimé les belles choses. Il s'est procuré le porte-manteau à la boutique par la même occasion. Un des seuls antiquaires encore en opération sur la rue Notre-Dame. Les crochets de métal jauni sont originaires du Horse Palace. Démoli en 2022 et reconstruit l'année suivante au cœur du Palais des Congrès de Griffinton. Grenier touche le fer et se sent l'index et le pouce après les avoir frottés l'un contre l'autre. Il me révèle, juste pour le plaisir de savourer les chiffres et d'en partager la sonorité, combien ça lui a coûté. Je ne le répéterai pas ici, mais sachez que mes yeux arrondis se sont changés en pièces dorées. L'auteur de « Malgré tout, Henri a ses envies » me mène vers la cuisine, où nous nous installons à une table basse d'inspiration nippone. Jambes croisées, esprit ouvert. Il me sert le thé avec élégance. Si je comprends bien, c'est pas la seule toile dans la maison.
Le Cournot? Oh non! Mais je suis loin d'avoir une grosse collection. J'ai un Holgate au-dessus de la tête du lit et un Pélan dans le salarium.
Un Pélan?
Ouais. Offert par le gouvernement fédéral.
Ça faisait partie de la trousse que j'ai reçue en entrant à l'Ordre du Canada en 2014. Je porte plus le mabroche, mais c'est pas politique, là. Je veux dire, c'est pas un geste politique, je veux dire. C'est vraiment Bock qui a reçu l'autre partie du diptyque l'année suivante, si je me trompe pas. Il l'a refusé, évidemment. Vous en souvenez peut-être. Sa lettre ouverte au devoir.
Oui.
Effacer le tableau. Ça avait fait une grande impression. Pauvre Bock. Cette histoire-là n'a pas été facile pour lui. On a presque fait une jaunisse. Mais c'était de bonne guerre.
Mais vous, vous n'avez jamais vraiment donné dans la politique.
Oh non. J'ai toujours préféré... toujours voulu mener ma carrière dans un ailleurs esthético-moral. Et parfois, un au-delà de la cité, si vous voyez ce que je veux dire. Mon premier roman, par exemple...
Le fameux prochain roman.
Ouais, voilà. Si on prend prochain roman, je dialoguais alors avec un Hubert Aquin spectral, sans doute plus hamlétien que sartrien. J'ai laissé dès le début l'ironie et les rires jaunes à d'autres de ma génération, pour plutôt cultiver une forme de néo-sincérité extrêmement aiguë. Et mes livres suivants n'ont jamais été autre chose que des efforts conscients de dire cet idéal. Un idéal qui serait en aucun cas être confondu avec des contingences politiques ou socio-historiques.
Il me rappelle que le fameux Henri, du roman Malgré tout, qui a tant fait parler de lui à une époque lointaine, n'est rien s'il n'est pas tous les Henri du monde et de l'histoire humaine, réunis dans les pages du recueil, dans une grande fête familiale et filiale, une grande réflexion sur l'hérédité et le génome. L'ambition de Daniel Grenier a toujours été de faire coïncider ces deux notions de base de la perception, que sont la synchronie et la diachronie. Alors qu'il m'explique tout ça, il joint les mains l'une dans l'autre et triture ses nombreuses bagues. Personnellement, je dois le dire, j'ai de la difficulté à suivre ce grand esprit.
Qui a tout à voir avec une synchronie post-industrielle. Et c'est très important, la synchronie, c'est essentiel, non?
Oui.
Pardon, c'est pourtant pas mon genre de sombrer dans des considérations vaseuses et masturbatoires. Voyons-le comme un jaune d'œuf. Hein, si c'est plus simple, OK? Un jaune d'œuf à la fois très lisse et plein d'une vie en suspens.
Oui, dans votre œuvre, quel livre préférez-vous?
J'aime tous mes livres, comme tout le monde. J'ai un tout petit faible pour Coup des Franches, par exemple. Le premier que j'ai publié directement en France, parce qu'il l'a pas eu facile. Hein. Il a dû prouver qu'il avait la coindure et qu'il était pas un jaune. Sinon, ben, j'aime tous mes livres. Comme tout le monde. Ils ont tous un quelque chose qui vient ou qui revient me chercher quand j'y pense.
Oui, dans Pantacourt, vous parlez justement beaucoup de ces anciennes choses. Livres, modes, personnes, qui reviennent vous hanter après des années.
Pantacourt est un roman sur la désuétude, sur l'obsolescence, sur les vieux objets qui jaunissent et se lient, ce que j'ai appelé ailleurs des mythes miteux.
C'est un livre tragique.
Tout à fait. C'est une tragédie.
Et la hantise est-elle toujours, au-delà de son aspect négatif, comment dire, positif?
Al Requin, le protagoniste du roman, vous répondrez sûrement oui. Oui, bien sûr. La hantise est un reflet de nos valeurs enfouies, de là les symboles prégnants dans le livre. Du maillot jaune arraché à Armstrong en pleine manifestation étudiante et du triangle des Bermudes au pôle inversé. Mais attention, hein? Haro sur toute lecture allégorique de mes livres, hein? Quand j'ai écrit Pantacourt en 2013, tout ça était d'actualité, hein? La hantise nous vivait littéralement plus que nous la vivions.
Contrairement à la majorité des romanciers que j'ai rencontrés, il n'a aucune difficulté à soutenir mon regard. Il me fixe droit dans les yeux et n'évite pas ni n'élude mes questions. Son regard est presque hypnotisant. La langue de bois ne semble aucunement l'affecter. Il se lève souvent pour aller aux toilettes et il sue abondamment, mais c'est compréhensible par une si belle journée. À l'extérieur, le mercure atteint à peine 44 degrés Celsius et le niveau d'alerte Viginette est au plus bas pour la première fois depuis des lustres. Malgré le dôme protecteur réactivé par l'administration Ferrandez au mois de janvier dernier, pour réduire les risques d'évaporation spontanée, La belle lumière du soleil entre par la fenêtre alors que nous parlons de son dernier opus. Déclinaison en jaune.
Votre roman « Déclinaison en jaune » qui vient de sortir en librairie s'impose déjà dans les palmarès de vente. Vous attendiez-vous à un tel retentissement?
Bon, on s'y attend toujours un peu. Je veux dire, on s'y prépare, là, du moins. Le sort d'un livre, c'est jamais prévisible. Encore moins de nos jours. Mais en tant que romancier, il est notre devoir de prévoir l'influence qu'aura une œuvre sur nos semblables, non?
Oui, mais inclure le lecteur comme collectivité dans le livre, est-ce donc une forme d'appel désespéré à la communication?
Non, j'irai pas jusque-là. Il s'agit plutôt d'une méthode consciente de contrôle de la réception. J'ai bien d'autres stratégies de contrôle.
Ah, donc pour vous, c'est possible de contrôler la réceptivité?
Absolument. Et je le fais souvent. Peut-être même que je le fais en ce moment.
Pour revenir, là, les personnages sont presque tous des Noirs ou des Asiatiques. Et que vouliez-vous suggérer par l'exploitation d'un tel motif dans un monde post-racial comme le nôtre?
Chaque teinte a son rôle à jouer dans la photosynthèse du nouvel ordre mondial. Qui plus est, il y a des personnages de Noirs dans mon œuvre depuis Saut quantique. Un des textes, vous en souviendrez, du recueil Malgré tout Henri à ses envies.
Oui.
Mais pour moi, la noirceur est une facette de l'homme. On peut pas s'en écarter. La mettre en scène, c'est pas s'y soumettre, mais plutôt la faire sienne, la posséder. C'est un exercice d'exorcisme, en quelque sorte. Dans Déclinaison en jaune, le noir est plus que présent sur la plantation du Bas-Saint-Laurent de M. Nguyen. Toute la récolte de cidre, de bananes d'hiver est menacée par la fièvre jaune, et les paddocks sont presque à sec. Mais laissons au lecteur le soin de découvrir tout ça.
Bien sûr. Même les romans de Daniel Grenier, qui semblent parfois insubmersibles, ne doivent pas être noyés par les révélations scabreuses.
Vous me flattez. Je reviens, il faut que j'aille pisser.
Bon, ben, je vais profiter de cette pause pour vous décrire un peu mieux la demeure de Daniel Grenier, l'antre duquel est sorti tant de livres de génie. Alors bon, par exemple, au fond de cette cuisine à air ouverte, je vois toute une série de serins en bois placés sur le haut de la cuisinière. Je vais me permettre de toucher. Ah ben voilà, ce sont en fait des distributrices de zeste de citron. Des petites étiquettes indiquent zeste de l'Algarve, zeste de Tanzanie, zeste de Lombardie. Ben, M. Grenier semble être un amateur de zeste. J'ai envie de lui demander s'il le consomme ou s'il ne fait que le recueillir. Mais en même temps, j'ai envie de lui demander tant de choses que je ne peux me laisser déconcentrer. C'est vaste ici, c'est grand, c'est beau. Les plafonds hauts donnent presque le vertige. Suspendu dans une des fenêtres avec vue sur le canal et au loin sur les plaines arides de Verdun, il y a un objet étrange qui ressemble à un cône inversé en quartz de citrine pure qui semble luire de l'intérieur. En me concentrant, j'arrive à percevoir une vibration subtile, mais c'est peut-être une brise qui passe dans la pièce en me frôlant. Je m'approcherai pas trop, ça a l'air fragile. Je constate également que le plancher est fait de béton réusiné et verni à la chaux. À la patine, blanc, cassé, donne un glacis naturel qui rappelle un peu l'acajou ambré de Sumatra. Je crois que... Est-ce possible? Laissez-moi me pencher. Ah, c'est... Oui, c'est bien ce que je croyais. Une poudre fine, jaunâtre, recouvre l'ensemble de la pièce. Ça semble être... Ah, ça semble être du sable raffiné de la baie asséchée de Lutson. Ah, Lutson, se pourrait-il?
Oui, sans doute. Il y a de la concordance dans tout, quand on y pense, là. Lorsque j'ai choisi de situer l'essentiel de l'action de Déclinaison en jaune... Dans le désert de Lutson, j'avais effectivement cet élément-là décoratif en tête. Maintenant que le livre connaît un tel succès, ben, Je suis pas fâché d'avoir eu ce flash en un éclair qui définit l'ensemble des tons du texte. Probablement, il s'est arrivé dans un bref moment de découragement. C'est ensuite soldé par une réussite totale sur le plan esthético-narratif. Encore une fois, c'est le renversement des pôles qui magnétise l'ensemble du récit. Que ce soit au niveau de la diégèse que de l'ontogénèse des personnages en substrat. Au moment où on s'y attend le moins, le corps jaune dans l'ovule de Mathilde se déploie. La lutéolyse est complète et puis tout prend son envol.
Mm-hmm. Et ces moments de découragement, vous en avez connu beaucoup au long de votre carrière?
Très peu. J'ai toujours regardé vers le haut. Je suis pas un pissenlit, moi. Je suis un tournesol. Ça enregistre?
Oui.
Vous avez enregistré ça?
Oui, absolument.
C'était bien, c'était bien?
Oui, oui. Je suis très satisfaite. C'est une belle entrevue. En fait, malheureusement, je vais devoir quitter.
Pourquoi?
Au moment où je m'apprête à partir, Grenier m'ouvre la porte et me serre la main. Un choc me traverse. Des picots dorés apparaissent dans mon champ de vision et je sens qu'il se retient pour ne pas rire.
Pas de bague!
J'ai acheté ça dans un marché de farce à trappe. Ça fonctionne bien, hein? Vous vous souvenez, on voyait souvent ça dans les films comiques.
Oui, ça donne tout un choc.
Bon, c'est un petit choc électrique de rien du tout. Vous en faites pas, c'est inoffensif. Sans rancune.
Sans rancune.
Vous m'en voulez pas?
Allons, comment pourrais-je vous en vouloir?
On se quitte complice, hein?
Ce qui est de complice.
Allez, au revoir.
En sortant du château, la lumière du soleil m'assaille et je boutonne sans tarder ma combinaison évaporale. Sur la rue Notre-Dame, le mégastore du port de Bré affiche fièrement en vitrine les piles placées en pyramides inversées du dernier opus de Grenier. Déclinaison en jaune. Il y a des centaines d'exemplaires qui semblent m'appeler, m'attendre. Et c'est mu par une étrange impulsion que j'entre dans la librairie avec la main déjà refermée sur mon portefeuille.
C'était un texte de Daniel Grenier, joué par Fanny Saint-Cyr et Francis Quentin.
Le beurre, une vérité pure et simple. Touche pas à ma margarine. Voilà deux slogans que se lancent depuis quelques semaines producteurs de beurre et de margarine au Québec. La concurrence, toujours farouche dans ce domaine, a repris de plus belle. Et cette fois-ci, elle a été déclenchée par la décision du ministre québécois de l'Agriculture, M. Michel Pagé, de colorer la margarine d'un jaune moutarde pour bien la différencier du beurre. Le débat a pris des proportions surprenantes.
Vous écoutez toujours dans le champ lexical l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on tourne autour du mot « jaune ». On commence cette seconde moitié avec « La saga du beurre contre la margarine ». Avec Nancy Cahouette.
Saison 1987. Radio-Canada annonce le début d'une polémique graisseuse qui va durer plus de 30 ans et j'ai nommé la saga du beurre contre la margarine. Mais d'abord, il faut connaître la petite histoire de la margarine. Le substitut du beurre a été légalisé au Canada sous le nom de spread de beurre en 1949. 3 ans plus tard, le gouvernement de Jean Lesage adopte un règlement pour légiférer la vente du produit qui prendra le nom de margarine. La tartinade a alors la couleur du beurre. Les ventes de la margarine éclatent au cours des années 70 et 80, si bien qu'en 1984, les Québécois achètent une fois et demie plus de margarine que de beurre. Il faut dire que la margarine coûte alors 3 fois moins cher que le beurre. Mais en 1987, rien ne va plus pour les producteurs de margarine. Le ministère de l'Agriculture les oblige à teindre leur tartinade en jaune moutarde ou en blanc. La saga naissante se nourrit à même la Charte des droits et libertés. Le président de la Fédération des producteurs laitiers du Québec de l'époque, Roger Daou, plaide pour le droit des consommateurs de savoir que la margarine n'est pas un produit naturel. On l'écoute au micro de Michel Cormier de Radio-Canada.
La couleur du beurre, c'est sa couleur naturelle. Et la margarine, sa couleur, ce n'est pas, elle n'est pas naturelle. On a tenté, justement, dans le passé, de faire en sorte que son produit soit exactement de la même couleur pour imiter le beurre et espérer prendre une part du marché du beurre, et ce qu'ils ont fait au cours des années. C'est bien sûr une part très importante du marché.
Les producteurs de margarine, quant à eux, crient aux libertés bafouées des pauvres consommateurs. Le représentant des producteurs de margarine de l'époque, Paul Boutillier, au micro de Michel Cormier de Radio-Canada.
Quand on est rendu à jouer sur la couleur des aliments pour les rendre non appétissants, moi, je vous dis, c'est mesquin. Je pense qu'on ne peut pas non plus léser le libre choix des consommateurs sans penser à la Charte des droits et libertés. Alors, je pense qu'il y a plusieurs recours légaux potentiels, mais je trouve que ce serait navrant, monsieur, que d'avoir à faire intervenir les tribunaux dans de tels gestes.
Mais le ministre a pris sa décision. La margarine sera blanche ou jaune moutarde. 10 ans plus tard, en 1997, la multinationale Unilever Canada importe des États-Unis vers Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 480 pots de margarine couleur beurre. Les pots qui n'ont pas été vendus dans les épiceries d'Alma sont saisis par le ministère de l'Agriculture. Unilever poursuit alors le gouvernement québécois pour non-respect de l'accord de libre-échange nord-américain. La multinationale gagne contre le gouvernement du Québec à la Cour suprême, mais le tribunal juge que la margarine doit rester blanche. À l'été 2008, le gouvernement Charest abolit le règlement sur les succès d'année du beurre. La margarine peut prendre la couleur qui lui plaît. Les producteurs de margarine crient victoire et l'Union des producteurs agricoles ne rechigne pas. Il faut dire qu'en 2008, les ventes du beurre sont en hausse contrairement à celles de la margarine. L'attaché de presse du ministre de l'Agriculture de l'époque, Jack Roy, juge, et je cite, « que les Québécois sont maintenant capables de faire la différence entre le beurre et la margarine. Vive la margarine libre! »
Parmi les trois couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune, c'est le jaune qui est le plus mal aimé. En effet, à chaque fois qu'on passe des sondages à la population pour demander quelle est leur couleur préférée, en Occident, s'entend, le jaune arrive toujours bon dernier. De même, dans les anciens manuels de teinturier, donc où on explique comment obtenir les couleurs à partir des divers matériaux à teinture, la partie consacrée au jaune est toujours la plus mince, souvent située à la fin. Il est vrai qu'il est très facile d'obtenir du jaune en teinture, peut-être que ça explique le relais à la fin du manuel, mais pas seulement. En Occident, le jaune a vraiment mauvaise réputation. Je note ici que ce n'est pas le cas dans d'autres civilisations. En Chine, le jaune est symbole de prospérité, on le voit encore aujourd'hui, c'est avec le rouge la couleur la plus importante. Mais revenons à l'Occident. Donc, on n'aime pas le jaune. Pourquoi? Pire encore, non seulement on ne l'aime pas, mais on en fait le symbole de la félonie, de la traîtrise, la marque des traîtres, la marque des gens qui ont un double visage ou qui s'apprêtent à vous jouer un coup dans le dos. On peut avancer, c'est ce que fait l'historien Michel Pastoureau, que cette réputation du jaune viendrait de sa proximité avec l'or. Autant l'or est bien sûr une couleur magnifique et vénérée, autant le jaune est comme un faux or, n'est-ce pas? Un or qui brille pas. Et ça expliquerait, pense-t-il, pourquoi est-ce que le jaune est vu comme un traître. Ça a l'air de l'or et c'en est pas. Et donc, dès le Moyen Âge, on en fait vraiment la couleur qui symbolise les traîtres. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, rapidement, on va trouver dans les enluminures, dans les peintures, les vêtements d'un traître peinturés en jaune. Par exemple, le personnage de Judas, dans nombre de peintures, porte un habit jaune. On va également utiliser le jaune pour peindre les portes des faux monnayeurs. Donc, toute personne trouvée à fabriquer de la fausse monnaie voit sa porte peinturée en jaune afin de l'identifier. Il doit porter une robe jaune pour aller au bûcher. Ben oui, ben après la porte, c'est le bûcher. Bon. Et ça va plus loin. Et je vous entends peut-être déjà penser à l'étoile jaune de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien oui, les nazis, en ressortant ce symbole infamant, sont allés le chercher dans l'iconographie du Moyen Âge. Afin d'identifier les gens qui n'étaient pas de vrais chrétiens, on a décidé de leur faire porter un signe distinctif. Et c'est Saint Louis qui a décrété que les personnes de religion juive devaient porter une rouelle ou une étoile ou un autre signe distinctif qui soit de couleur jaune. Ça allait du jaune au rouge à peu près. Et c'est ainsi qu'on pouvait donc les distinguer dans la société. Et c'est cette idée-là qui a été reprise par les nazis pour identifier les populations juives. Mais quittons la triste étoile jaune du nazisme pour trouver un autre usage du jaune pour marquer l'infamie. En effet, au Moyen Âge et longtemps jusqu'à l'époque moderne, les maris trouvés cocus étaient souvent promenés dans le village habillés en jaune ou on peinturait la porte de leur maison en jaune, encore là, donc faire de la fausse monnaie ou tromper sa femme, même combat. Si vous faites les deux, je ne sais pas ce qui vous arrive. Peut-être la maison entière devient jaune. Mais donc, le jaune devient également le symbole du cocufiage. Mais j'aurais, pour ma part, je ne veux pas aller à l'encontre de Michel Pastoureau, qui est le grand spécialiste de l'histoire des couleurs et de leur symbolique, mais je verrais autre chose que le faux or, le jaune comme faux or, pour expliquer le piètre statut qu'a cette couleur dans l'histoire. Le jaune, c'est également, si on revient à la théorie des humeurs de Galien, un médecin de l'Antiquité, et la théorie de Galien va être utilisée en médecine jusqu'à tard au 18e siècle, distinguait donc quatre caractères, le sanguin, le mélancolique et le bilieux, entre autres, parmi les quatre humeurs de Galien. Et qu'est-ce que le bilieux? Bien, le bilieux, c'est donc celui qui fabrique trop de bile, la bile qui est fabriquée par l'estomac. Et on spécifie bien la bile jaune, parce que dans les humeurs de Galien, il y a également la bile noire. Quand on se fait de la bile noire, bien, on se fait comme du mauvais sang, on est triste et mélancolique. Mais si on fabrique trop de bile jaune, donc si on est un bilieux, eh bien, évidemment, on a le teint jaune et on est un caractère instable, aigri, hargneux, et de la hargne, de l'aigreur jusqu'à la possibilité d'être un traître et d'être un trompeur. Moi, je trouve que la frontière est mince, c'est qu'effectivement, on a pu associer le caractère du bilieux, donc plein de hargne, comme ça, avec l'idée d'un traître, de quelqu'un qui va vous tromper. Mais au début, j'ai dit parmi les trois couleurs primaires. Avant que les progrès de la science prouvent ces trois couleurs primaires, comment est-ce que ça s'est élaboré? Quelles ont été les prémices scientifiques, en fait, qui ont posé les bases pour dire il y a trois couleurs primaires, rouge, bleu et jaune? Eh bien, je vais vous lire pour vous éclairer un petit traité d'optique. Un livre paru en 1740 qui est écrit par Louis-Bertrand Castel, qui a vécu de 1688 à 1757. Un livre qui s'appelle « L'optique des couleurs, fondée sur les simples observations, tournée surtout à la pratique de la peinture, de la teinture, des autres arts coloristes. » Voici comment il explique les trois couleurs primaires. « Toutes ces couleurs ne sont que des transitions, des nuances et des participations de ces trois couleurs mères dont les combinaisons mutuelles produisent toutes les couleurs. Rien n'est plus aisé que de dériver toutes les couleurs des trois, bleu, jaune et rouge. Il n'y a qu'à les mêler selon toutes les combinaisons possibles, 2 à 2 et 3 à 3. Il n'y a pas de couleur qu'on ne sache résulter de ces mélanges divers. Le bleu avec le jaune fait tous les verts. Le jaune avec les rouges fait les orangés. Le rouge avec le bleu fait tous les violets. On ne connaît guère dans l'usage de la vie que ces 6 couleurs ou même 5. Le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le violet. Ce sont des points de comparaison auxquels on rapporte toutes les couleurs qui se présentent. Elles tiennent toutes, en effet, du bleu, du vert, du jaune, du rouge ou du violet. On en est quitte pour traiter de bleu verdâtre ou de vert bleuâtre, le céladon, ou le vert canard qui tient le milieu entre le bleu et le vert. On traite de vert jaunâtre ou de jaune verdâtre, la couleur d'olive, qui partage la nuance du jaune au vert. La couleur d'or, d'aurore, de souci, d'abricot, qui est un jaune un peu doré, un peu vif, est traitée de jaune tout court. L'or est jaune, dit-on toujours, et il est vrai que l'or pur l'est, mais on parle de l'or usuel, que l'alliage d'un peu de cuivre a un peu rougeâtre, surtout en Angleterre, car en Espagne, l'or est plus véritablement jaune, étant plus pur. L'oranger, qui est plus ardent, étant plus mêlé de rouge, est traité de rouge le plus souvent. Le cramoisi, le pourpre, le couleur de rose, le couleur de chair, qui sont un rouge un peu teint bleu, d'un bleu couvert, est aussi traité de rouge. Les experts l'appellent rouge cramoisi. Le violet rouge ou violet cramoisi, autrement dit violet d'évêque, est traité de violet tout court, aussi bien que le violet agate, qui est plus bleu, et le bleu-violet, que j'ai appelé gris-bleu. Bon, je me suis égarée, ça y est, je suis rendue dans le bleu et dans le rouge. N'empêche, vous voyez maintenant une des théories élaborant l'origine des trois couleurs primaires. C'est tiré de l'optique des couleurs, fondée sur les simples observations tournées surtout à la pratique de la peinture, de la teinture, des autres arts coloristes, par Louis-Bertrand Castel, un ouvrage publié en 1740.
Avec l'album jaune en 1970, je pense que ça marque vraiment un tournant. Je ne suis pas le premier à le dire, ça c'est certain. Mais ça fait partie d'une série d'albums où les chansonniers absorbent un peu toute l'influence de la contre-culture, là, vraiment, mais au grand jour. Ben bonjour, mon nom est Sébastien Desrosiers et j'ai le bonheur de co-animer avec Mimi la Twisteuse depuis 2011 l'émission Mondo PQ, l'envers du rétro québécois des décennies 50, 60, 70 et même au-delà. Et en 1969, 70 et 71, c'est une période très, très importante pour les chanteurs québécois. Puisqu'on essaie toutes sortes de choses, on se lance dans des productions d'avant-garde. Jean-Pierre Ferland est peut-être le plus célébré d'entre tous avec son album Jaune et puis ensuite Soleil, mais il était loin d'être le seul. Il y avait des gens comme Joël Denis qui se sont réinventés, là, vraiment, on reconnaissait plus le gars qui avait chanté le Yaya. Jean Fortier est peut-être mon exemple le plus éloquent, l'ancien leader du groupe Les Cailloux, un groupe traditionnel quand même fort populaire au Québec, se réinvente, mais totalement en 1970, avec une sorte de soul psychédélique, avec beaucoup de guitares électriques, là, vraiment. Serge Laprade même va même produire un album psychédélique. C'est une période où les chansonniers apprennent à absorber, oui, les influences de la contre-culture, mais aussi à adopter un ton résolument américain. Donc, on a des influences des États-Unis internationales, mais aussi on prend un goût pour le risque. On étoffe les productions, on fait appel à d'autres auteurs-compositeurs pour appuyer vraiment un mood que les chansonniers veulent mettre sur album. Et on se lance aussi dans des albums concept.
Ce soir, à votre émission Mondo PQ, vous allez faire jouer un démo inédit de Jaune. Où est-ce que vous avez déniché ça?
Ah ben ça, je dois ça, justement, on a plusieurs collaborateurs avec, avec Mondo PQ. Et un de ceux-là, mon ami Gaétan, nous a contribué un rare démo d'une pièce qui est extraite de Jaune. Jaune, lorsqu'il a été réédité pour son 35e anniversaire en CD, a fait l'objet, bon, d'un repiquage, remasterisation complète, là, vraiment. Mais il n'y avait pas d'inédit, ce qui est un petit peu malheureux. Et j'ai toujours été persuadé qu'il y en avait. Eh bien, lui, en a trouvé justement un court extrait, une première version de God is an American qu'on va diffuser pour la première fois peut-être depuis 1970. Et ça, c'est extrait d'un coffret de 10 vinyles, peux-tu croire, qui avait été fait en partenariat avec Radio-Québec et le ministère de l'Éducation à l'époque pour des ateliers sur disque à l'attention des élèves du secondaire 5. Donc, comment ça se passait dans le métier, diverses entrevues avec des philosophes ou des intellectuels de l'époque, des féministes aussi. Et on a une superbe entrevue avec Ferland qui dure tout le long d'une face. Et on a même Ferland en studio en train de composer une chanson qui demeurera peut-être inédite avant quelques années. Et on a ce charmant démo de « God is an American ».
Cause an American part one track takes 7. Demo.
Talbot aussi. On est là, on est un groupe, on est quatre pour le moment. Mais on intervient à tous les niveaux, même au niveau d'une discussion comme aujourd'hui. Quand on va finir, on va s'en aller ensemble. Puis à un moment donné, Perry va dire, tu vois, t'as été tout croche à ce moment-là. Puis moi, je vais dire, toi aussi, t'as été tout croche à ce moment-là. Pourquoi on a été croche? On va dire une chose, on a la chance de s'aimer beaucoup, se pardonner énormément de choses, bon, mais on se passe pas grand-chose, finalement.
Et pourquoi est-ce que Jaune a marqué plus que les autres?
Jaune, en même temps, c'est pas le premier album de Jean-Pierre Ferland qui avait déjà beaucoup de succès, autant au Québec qu'en France depuis les années 60, mais dans un style plus près de celui de Brel. Et à la suite de Le Stitch Show en 1968, c'est vraiment comme un électrochoc dans la carrière de Ferland. Et bien qu'il trouvait peut-être Charlebois un peu fendant, il se rendait compte que son temps est en train de passer là, et qu'il fallait surtout pas rater le bateau. Là. Et il se lance dans des expérimentations avec Michel Robidoux, entre autres, et André Perry, qui venait d'ouvrir son nouveau studio à Montréal. Et vraiment, il leur donne un peu carte blanche. Il leur donne des idées, des débuts de chansons, et hop, ça démarre comme ça. Et c'est vraiment plus l'affaire aussi d'un groupe. On appuie des textes solides de la part de Ferland en les entourant d'arrangements très, très, très complexes, là, vraiment éthérés et qui sont à 100 lieues vraiment du Ferland qu'on avait connu 10 ans auparavant. Là. Et ça marque un renouveau pour un des artistes, un des chanteurs, si on veut, les plus célébrés au Québec. Et aussi, c'est comme s'il disait à tous ses comparses, allez-y, là, je l'ai fait, Charlebois l'a fait avec Louise Forestier, Le Stitch Show. Faut arrêter de niaiser, là, si on veut.
America. America.
Et Dieu leur répondit.
Vous pensez que c'est facile de choisir avec vos grands gueules? Vous pensez que c'est facile d'être un dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire, vous me faites...
Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre, et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs,
et vous me faites la peine et tout.
C'est facile de dormir avec vos grandes gueules. Vous pensez que c'est facile d'être ici, ailleurs et partout à la fois? Il y a des fois je recommencerai tout ça sans Ève et sans Adam. Que des chiens, que des chats, que des champs et des bois. Et s'il faut que je vous le redise dans votre vocabulaire, vous me faites.
Et puis vous faites la peine à Saint-Pierre, et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs,
et vous me faites la peine et tout.
Ils comprendront jamais. Allez, Saint-Pierre, coupe!
C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. On vous laisse avec une citation qu'on trouve justement sur la pochette de l'album jaune de Jean-Pierre Ferland. Citation d'une lettre de Diderot à Madame Volant. Une seule qualité physique peut conduire l'esprit qui s'en occupe à une infinité de choses diverses. Prenons une couleur, le jaune par exemple. L'or est jaune, la soie est jaune, le souci est jaune. La bile est jaune, la lumière est jaune, la paille est jaune. À combien d'autres fils ce fil ne répond-il pas? Le fou ne s'aperçoit pas qu'il en change. Il tient un brin de paille jaune et luisant à la main, et il crie qu'il a saisi un rayon de soleil. On participait à l'émission cette semaine. Chloé Barry et l'histoire du maillot jaune et du jaune tout court, Christiane Campagna et le jaunisme, Daniel Grenier, auteur de « Malgré tout, on rit à Saint-Henri », nous a écrit un texte sur la thématique. Fanny Saint-Cyr et Francis Quentin l'ont joué pour nous. Nancy Caouette récapitulait la saga du beurre contre la margarine et Sébastien Desrosiers de l'émission Mondo PQ, diffusée tous les dimanches à 17h sur les ondes de CIBL, nous parlait de jaune de Jean-Pierre Ferland. Dans le champ lexical est une émission de Mathieu Charlebois, Joanie Larue, Christiane Campagna et Nancy Caouette. Revenez-nous la semaine prochaine. Le mot sera erreur.